Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Aujourd'hui, retour dans la Ligue Île-de-France des échecs avec son président Bob Robert Iazzoni. Salut Bob.
Bonjour Stéphane, comment vas-tu en ce bon lundi?
Eh bien ça va, écoute, j'en profite pour te donner aussi tous mes voeux de meilleure année 2015, hein, ainsi qu'à la Ligue Île-de-France, une année 2015 qui va être riche en événements encore une fois.
Hein. Oui, je te retourne d'abord mes voeux à toi et puis à Fréquence Diagonale, qui est, je le vois, assez fréquentée d'ailleurs. Hein.
Oui, assez fréquenté avec de très bons retours et notamment les présidents de ligue sont très contents bien sûr comme toi d'ailleurs aussi d'avoir une petite émission comme ça qui permet de tracer l'organisation du jeu d'échecs en France hein, puisque c'est un peu son axe éditorial. Hein, je sais pas, tu as pu sans doute voir hein, puisqu'on est allé même y compris jusqu'en Martinique. Hein,
avec, oui, tu fais le tour de toutes les ligues. Enfin, c'est bravo, un grand bravo à toi.
Ouais. Alors, donc, on va maintenant parler de nouveau de cette Ligue Île-de-France, puisqu'on revient un an après, bien sûr, mais le calendrier évolue. On va rappeler aussi, bien sûr, quelques éléments clés pour cette Ligue Île-de-France des échecs, qui est quand même la ligue la plus importante en nombre en France, enfin, en tout cas, une des plus importantes. Avec, alors, on est quand même obligé de. Maintenant, de faire attention à la Ligue de Corse, hein, puisque c'est une ligue aussi qui est en plein boom, hein, qui devient très très importante aussi. Donc on est obligé de faire attention à ces deux ligues, mais la Ligue Île-de-France, bien sûr, a un poids tout à fait considérable, y compris un poids historique plus important de toutes les ligues de France. Alors, cette ligue, tu vas nous rappeler, c'est combien de licenciés déjà, combien de clubs, comment elle s'organise?
Alors, la Ligue Île-de-France, elle est faite déjà de 8 départements qui entourent donc Paris. Paris, c'est 40 clubs avec des clubs qui naissent tous les jours, toutes les années. Hein. Il est important de rappeler à nos auditeurs que les joueurs d'échecs de l'année dernière sont pas ceux de cette année. Il y en a en plus, hein, tous les ans il y en a en plus. Et merci Stéphane de faire cette émission, ça va pouvoir rappeler à tout le monde et aux nouveaux surtout qu'il y a des compétitions pour eux, hein, qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, peut-être parce qu'ils n'étaient pas licenciés. Donc 8 départements, on a plus de 180 clubs, on a 11 000 licenciés, un nombre croissant de licenciés, donc un très très gros travail de tous nos bénévoles. Hein. Alors la Ligue, la Pyramide, c'est moi le président, mais je suis pas tout seul, donc c'est un comité directeur de 10 personnes, on est tous bénévoles, et sous cette pyramide de 10 personnes, on a les présidents de départements, donc de ces 8 départements, qui eux-mêmes chapeautent tous leurs clubs, et voilà, on a toute une liste de bénévoles, des gens qui œuvrent dans les échecs, comme toi, voilà, à tous les niveaux, et vraiment un nombre croissant aussi bien de licenciés que de compétitions, avec nous qui avons des compétitions phares, et je crois qu'on va en parler un petit peu après. Alors, tu parles de ligue qui augmente, la Corse, bah oui, merveilleux. Alors, on a au-dessus de nous la Fédération Française des Échecs, qui organise chaque année un séminaire des présidents de ligue, et bien, ce qui nous permet d'échanger et de voir que toutes nos ligues sont différentes, et malgré tout, des bénévoles qui essaient d'en faire plus chaque année. Donc moi j'en profite pour remercier tous les bénévoles de partout, quoi. Voilà, sans eux, on n'est rien.
Oui, donc peut-être effectivement, et de façon plus générale, dans l'organisation sociale, bien sûr, le bénévolat est souvent la base même de beaucoup d'autres activités, y compris des activités non bénévoles d'ailleurs.
Exactement. Oh oui,
donc, alors, tu nous parlais de 40 clubs, c'est sur Paris ou la Ligue Île-de-France? Non,
sur Paris, sur Paris. Hein,
sur Paris. Et sur la Ligue Île-de-France,
180 clubs.
80.
180.
180 clubs. Et combien de licenciés alors donc?
Plus de 11 000 licenciés, nous avons eu donc à fin août 2014.
D'accord, plus de 11 000 licenciés pour oui. 180 clubs. Et donc, la Ligue Île-de-France qui, effectivement. Voit des nouveaux clubs arriver chaque année et peu de décès par contre.
Le bénévolat, effectivement, enfin si, les gens arrêtent aussi. Mais enfin souvent ils arrêtent et puis ils vont dans d'autres clubs.
Oui.
Enfin, quand on est passionné du jeu d'échecs, on arrête dans un endroit et puis on arrête d'être dirigeant d'un club et puis on devient joueur d'un autre, c'est normal.
Oui. Tiens, à propos de naissance aussi, je vais en profiter, puisqu'on est en Ligue Île-de-France pour cette émission, pour citer la naissance du blog du comité départemental du 93. Et qui n'existait pas encore avant le mois de décembre, je crois bien, et qui a été mis en ligne voilà, au mois de décembre. Le 93 a désormais le blog de son comité départemental d'échecs.
Je rappelle, Stéphane, que sur notre site internet de la Ligue Île-de-France, donc le site c'est www.idf-échecs.com, il y a une page département, et sur cette page département, chacun des départements, donc maintenant, y compris le 93, eh bien, nous renvoie sur sa propre page d'activité. Donc le licencié, le nouveau licencié, celui qui arrive dans les échecs ou qui n'y est pas encore, qui n'est pas encore licencié, il va aller sur Google, il va taper Fédération Française des Échecs. De la Fédération Française des Échecs, il va pouvoir retrouver le club à côté de chez lui, soit directement du site de la Fédération, soit en passant par le site de la Ligue qu'il souhaite, et pour nous, sur le site de la Ligue de France des Échecs. Voilà, il peut aller chercher le club juste à côté de chez lui s'il veut pouvoir profiter de l'expérience des licenciés.
Oui, alors un site effectivement de la Ligue Île-de-France des Échecs qui, rappelons-le, est quand même un des sites les plus efficaces en France. Hein, on a pu voir quand on a fait le tour des ligues, qui est développé sur un CMS Content Management System libre, un logiciel libre qui s'appelle Joomla,
oui.
Et qui est mis à jour régulièrement, où on voit effectivement toutes les informations, on peut retrouver toutes les informations, les comités départementaux, les clubs, mais aussi bien sûr les compétitions organisées tout le long de l'année par la Ligue et par les clubs, bien sûr, puisque les clubs annoncent leurs propres tournois de blitz, de rapide ou de partie lente, sur le site de la Ligue Île-de-France qui sert de point de ralliement pour tous les joueurs franciliens avides de compétition, avides d'aller pousser le bois, de jouer aux échecs évidemment dans tous les tournois organisés. Alors la Ligue, c'est aussi donc ce site internet qui donne les informations, donc aussi donc une communication internet.
Exactement, ouais. Communication internet, communication par mail aussi, hein. Dès lors où les compétitions sont annoncées par les organisateurs, pas uniquement les nôtres de compétition, hein. Donc alors les compétitions ligues sont visibles sur notre site et nous envoyons un maximum de mails à un maximum de licenciés de l'Île-de-France pour les prévenir de ces compétitions. Et bien sûr, les organisateurs sont invités à envoyer un mail à notre webmestre pour que leur annonce de leur tournoi paraisse sur notre site. Bien sûr, les tournois de l'Île-de-France, hein, les tournois de la France sont sur le site de la Fédération.
Voilà, exactement, tout à fait. Donc un site incontournable pour qui veut jouer aux échecs en Île-de-France, à Paris ou dans tous les départements de l'Île-de-France. Alors, on continue sur la Ligue, puisqu'on va parler du calendrier traditionnel. Alors après, en deuxième partie, on reviendra plus spécifiquement sur les gros, gros événements qui vont avoir lieu cette année au mois de février, le fameux tournoi R&B qu'on va détailler, mais aussi on va parler des 90 ans de la Ligue Île-de-France, une date mémorable, et du championnat de Paris qui est quand même aussi le championnat important. On en parlera en long et en large en deuxième partie, mais on va en parler aussi maintenant, puisqu'on va parler du calendrier, je dirais, officiel, traditionnel, annuel de la Ligue Île-de-France. Alors, ça passe par des championnats officiels aussi.
Oui, alors, calendrier traditionnel, ça démarre par les compétitions par équipe. Hein, donc, la saison démarre au mois de septembre-octobre pour toute la France échiquéenne. Donc, d'abord, les compétitions par équipe qui sont organisées dans un premier temps par la fédération, et puis nous, les ligues prenons le relais, donc des nationales, hein, ce qu'on appelle des compétitions nationales, donc et par équipe, puis des compétitions départementales qui là dépendent, comme je le disais tout à l'heure, et bien des départements, de leur comité, qui créent leur propre compétition, et puis la pyramide se fait ainsi. On démarre dans une équipe au bas de la pyramide, c'est-à-dire dans son département, et puis on arrive dans une compétition régionale qui est donc dirigée par nous, la Ligue Île-de-France, Et la pyramide, elle continue par une compétition nationale gérée par la Fédération Française d'Échecs. Donc ça, la saison, elle démarre tôt, hein, elle démarre comme toutes les compétitions de France, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et puis arrivent les compétitions phares dont tu parlais, Stéphane, les compétitions individuelles et les compétitions individuelles. Alors dans la chronologie, dès le mois d'octobre, nous organisons un festival R&B. Donc R&B, hein, je rappelle, c'est Rapid et Blitz, donc qui lui est pour les jeunes, donc compétition R&B, des internationaux d'échecs R&B au mois d'octobre. Puis arrive au mois de février le championnat qualificatif Île-de-France, donc avec nos meilleurs jeunes qui iront défendre les couleurs de leur club et de la Ligue au championnat de France.
Alors ça, pour cette partie-là, tu nous as zappé une étape qu'il faut quand même qu'on cite.
Les qualifications au sein des départements.
Voilà. Donc,
autant pour moi. Donc de la même façon, le bas de la pyramide, bien tous les jeunes qui arrivent dans les clubs, qu'ils soient débutants ou pas débutants, donc surtout les débutants, les échecs sont un sport, donc les débutants ne doivent pas avoir peur de la compétition et ils viennent en général dans les clubs pour la compétition, donc ils ont d'abord eux la compétition, les qualifications départementales, voilà, et là c'est ouvert à tous les licenciés de tout âge, donc on reste dans les catégories jeunes, bien sûr, et ils vont faire les compétitions entre jeunes de leur âge pour se qualifier pour la phase régionale.
Alors ça a lieu quand ?
Je me permets de féliciter tous les départements cette saison, parce que ils ont explosé les chiffres des qualifiés dans leur département, puisque au mois de février, donc maintenant la phase régionale, donc c'est le rendez-vous pour les jeunes, nous devrions accueillir près de 800 jeunes au mois de février pour les qualifications qui leur permettront d'aller au championnat de France.
Ah,
on y reviendra après, ouais. Stéphane, peut-être, je finis de lister donc nos compétitions. Au mois de février arrivent les internationaux d'échecs R&B, donc Rapid et Blitz, et cette fois-ci, ce ne sont plus les jeunes, mais c'est tout le monde, donc les jeunes et les adultes, avec ouvert, évidemment, là, on l'ouvre plus à l'Île-de-France, mais on l'ouvre au monde entier, et on y reviendra après, on a évidemment des gens du monde entier qui viennent jouer à Paris. Ensuite, nous avons la compétition, je crois, Stéphane, la compétition la plus convoitée peut-être en France, après les championnats de France, c'est le championnat de Paris, avec une année particulière, puisque 2015 fêtera les 90 ans du championnat de Paris, et donc qui a lieu en juillet, sans oublier bien sûr que les meilleurs franciliens ont la possibilité d'aller jouer le championnat de France, organisé par la Fédération Française des Échecs, notamment ce que la Fédération appelle le tournoi Accession, et donc c'est ce qu'on appelle le tournoi qualificatif pour le championnat Accession. Voilà une autre compétition phare de la Ligue Île-de-France des Échecs.
Oui, tout à fait, hein, une des des tournois les plus convoités, comme tu disais, avec sans doute aussi le Corsica Masters, ou on peut citer peut-être aussi Capelle-Lagrande, hein, mais c'est vraiment les très grands événements nationaux qui font partie de l'imaginaire aussi, de l'histoire aussi, hein, maintenant, du jeu d'échecs, tous ces grands événements. Alors, revenons sur les jeunes, puisque je voulais préciser peut-être la date des comités départementaux. Alors, on a passé ces dates-là, mais...
Oui, alors les comités départementaux ont, entre guillemets, la liberté de trouver leur date. Cette année, ils ont été organisés fin novembre et début décembre. C'est compliqué, hein, je rappelle, les bénévoles doivent non seulement s'entourer d'autres bénévoles pour accueillir des jeunes pour ces comités départementaux. Paris, cette année, a refusé plus de 100 joueurs et on a eu 400. a refusé plus de 100 parce qu'il n'avait pas la place. Les gymnases, eh ben ça, voilà, il n'y a pas que les échecs. Pour nos institutions et pour nos mairies, il n'y a pas que les échecs. Il faut réserver des salles très très longtemps à l'avance. Moi, je suis aussi président de club. Je suis président d'un club de Seine-Saint-Denis. J'ai des magnifiques salles que je dois réserver 2 ans à l'avance pour l'avoir. Et 2 ans à l'avance, eh ben, c'est compliqué parce que le calendrier jiquéen, il ne peut pas exister 2 ans à l'avance non plus. Donc voilà, la plupart des clubs, ben, c'est ainsi, des départements, c'est ainsi. C'est pour ça qu'on n'impose pas de date pour les comités départementaux afin qu'ils fassent leur qualification pour les jeunes. Ils l'annoncent rapidement au début de saison et cette année, donc voilà, on les a eus entre fin novembre et début décembre. Sur 3 week-ends, les 8 départements ont fait leur championnat qualificatif Île-de-France.
Voilà. Alors tu parlais que tout le monde pouvait y aller, et puis aussi on peut aussi prendre sa licence lors de ces championnats si on ne l'a pas. Je veux dire, quand tu disais c'est ouvert aux licenciés, mais on peut toujours prendre sa licence au moment d'un championnat.
Bien sûr, ouvert aux licenciés et aux non-licenciés à J-20, puisque le jour J, on peut prendre effectivement sa licence. Ouais. Alors attention, on prend sa licence quand on démarre, si on veut aller au championnat de France, il va falloir prendre sa licence et gagner tous les championnats qualificatifs d'abord. Hein. On prend sa licence avant de faire le championnat qualificatif dans son département.
Oui, voilà. Bien sûr, tout à fait. Alors, tu disais, il faut absolument revenir là-dessus, parce que ça, c'était un chiffre que je ne connaissais pas, et comme tu disais, ça a été un record battu cette année. 800 participants au championnat Île-de-France, 800 qualifiés départementaux pour un championnat régional. C'est un chiffre qui fait le tournis, qui donne le tournis, parce que ça fait partie des meilleurs chiffres de participation d'un championnat de Paris, par exemple, ou même d'un championnat de France qui tourne aux alentours d'un millier de joueurs aussi. Donc 800, c'est colossal comme chiffre.
C'est la preuve du travail des bénévoles dans les clubs. Hein, si le nombre de licenciés augmente chaque année, c'est évidemment grâce au club, et nous, la Ligue, alors notre travail à la Ligue, c'est d'essayer de trouver des locaux adaptés à les recevoir, et puis nous aussi de mettre en place une équipe de bénévoles pour pouvoir accueillir ces 800 joueurs, car je le rappelle Stéphane, ces 800 joueurs vont venir devant l'échiquier du lundi au vendredi toute la journée. Donc un grand bravo à eux déjà, moi je les félicite déjà. Ils arrivent vers nous le 23 février, c'est dans moins d'un mois, et je les félicite déjà de venir, 800 personnes sur une semaine, et tu as raison Stéphane, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint jusqu'aujourd'hui.
Ouais, c'est important. Alors on connaît la salle où ça va avoir lieu déjà?
Oui, la salle, ce sera le complexe Louis Lumière, qui est Paris 20e, en bordure du périphérique, accessible très facilement en voiture, bordure du périphérique, et accessible en métro, en bus, en tramway, en PC. Donc on a effectivement tous les accès possibles sur ces gymnases. On a la chance aussi de pouvoir séparer les plus jeunes des moins jeunes, car ils ne jouent pas à la même cadence, hein, pour nos débutants là qui nous écoutent, c'est la durée de la partie. Donc les plus jeunes jouent moins longtemps que les plus âgés, et on va pouvoir les séparer dans deux salles, hein, qui sont distantes de 10 mètres. Hein. Mmh. Tout est au même endroit, mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité-là de pouvoir séparer des gens qui ne jouent pas le même temps. Et ça, c'est important.
Oui, alors à noter hein, que ce championnat est aussi, il faut rappeler que c'est par catégorie, c'est-à-dire qu'on a des petits poussins, des benjamins, des minimes.
Et on va jusqu'au junior.
Voilà, jusqu'au junior, c'est-à-dire les moins de 20 ans. Et on continue, bien sûr, dans sa catégorie, avec aussi, d'ailleurs, des catégories, pour les filles qui le souhaitent, des catégories spécifiquement féminines aussi. Il y a des catégories féminines, sachant que les filles peuvent choisir, du coup, de jouer soit le toute catégorie, soit le féminin.
Exactement. Hein, ça, c'est la Fédération Française des Échecs, hein, chaque année, qui fait son règlement et qui peut le réviser chaque année. Effectivement, comme tu le dis, les filles peuvent jouer. La catégorie garçon n'existe pas, c'est une catégorie mixte. Donc les filles peuvent effectivement décider de la catégorie qu'elles font, à savoir que les championnats de France, de la même façon, hein, les championnats de France sont aussi séparés filles et garçons, avec la possibilité pour les filles de jouer le championnat mixte. Et comme tu le disais, ça part du petit poussin. Et l'année dernière, le plus jeune avait moins de 5 ans. Et ça va jusque 20 ans. Et chacun rencontre l'autre, les autres du département, de la ligue, pendant une semaine.
D'accord. Donc ça nous fait un bel aperçu, hein, je crois, du calendrier, traditionnel, général, et particulièrement de cette année 2015, hein, dont on voit qu'il y a des nouveautés, avec 800 joueurs qualifiés pour le championnat de jeunes régional. Et puis, on va faire une première une pause musicale, notre pause musicale, hein, dans Fréquence Diagonale. Si tu veux bien, Bob.
Bien sûr.
Et pour nous rejoindre après, pour parler du gros morceau de cette émission, du gros morceau de ce podcast spécial Île-de-France, puisqu'on va parler plus en détail de ce fameux R&B, qui devient maintenant un événement vraiment traditionnel, très important de l'année en Île-de-France. Mais aussi, on va parler d'un événement exceptionnel en 2015, puisque c'est les 90 ans de la Ligue Île-de-France. Et enfin, on parlera du championnat de Paris 2015, qui là aussi réservera de belles surprises, vous allez voir, à cause de ces 90 ans justement. Et tu vas nous en parler en détail. Donc, petite pause et on se retrouve juste après dans Fréquence Diagonale.
À tout de suite. I'm
Nous voici de retour dans Fréquence Diagonale, toujours avec Bob, Robert Iazzoni, président de la Ligue Île-de-France des échecs. Alors, on a vu hein, dans la première partie le calendrier traditionnel, l'organisation, les 11 000 licenciés, les 180 clubs de la Ligue, les championnats départementaux, championnats officiels, etc. Et puis, on va parler plus en détail maintenant des trois gros morceaux de cette année 2015, mais aussi d'événements récurrents. Maintenant, bon, depuis longtemps le championnat de Paris, ça on en traitera en dernier. Mais d'abord, on va parler de ce qui nous intéresse dans l'immédiat, puisqu'on est au mois de janvier là, et en février, dans un mois, aura lieu de nouveau le fameux championnat R&B, c'est-à-dire Rapid ouais. et Blitz.
Tout à fait. Alors peut-être donc on va s'adresser, hein, Stéphane, on va s'adresser non seulement à ceux qui ont l'habitude de jouer aux échecs, mais surtout à ceux qui arrivent dans les clubs. Hein, on va s'adresser à tout le monde si tu le veux bien. Donc on va leur rappeler ce qu'est le championnat R&B. Donc le championnat R&B, c'est une compétition qui a lieu sur un week-end. Et donc le samedi après-midi, c'est une compétition Blitz. Donc Blitz avec donc un temps pour chacun des joueurs, grossièrement une partie va durer aux alentours de 15 minutes.
Oui, alors la cadence, faut la donner carrément. La cadence, ce sera 5 minutes par joueur, hein, c'est ça?
Exactement, plus quelques secondes quand même d'incrément.
Ouais.
Alors là, pour nos tout débutants, voilà, des pendules électroniques hein, qui permettent de rajouter du temps à chacune de nos coups joués. Voilà, ça c'est un petite variante ce qui nous permet d'avoir plus de sport, je sais pas si je peux dire ça dans...
Oui.
Dans un, je peux dire.
Bien sûr.
Plus de sport dans nos parties. Voilà, c'est une cadence donc de 5 minutes plus 2 secondes par coup. Donc ça a lieu le samedi 28 février 2015. Donc les internationaux de Blitz, donc c'est le samedi après-midi, les joueurs vont tous faire, je dis bien tous, 9 parties. Et nous aurons donc un champion. Nous faisons trois tournois, c'est-à-dire un tournoi, ce qu'on appelle le Blitz nous des As, avec des joueurs avec un Elo, un classement supérieur à 2000. Ensuite, nous avons un deuxième tournoi qui s'adresse donc à des joueurs entre 1600 et 1999. Donc toujours, hein, tout le monde fait toujours 9 parties. Et puis ce qu'on appelle le Blitz de l'avenir, avec là des joueurs dont le classement est inférieur à 1600. Donc ça va du non classé, celui qui démarre les échecs, jusqu'à 1600, quelqu'un, je crois, ce qu'on appelait dans le temps la 4e ou 5e catégorie. Donc tout le monde fait 9 parties, ça c'est le R, du R&B. Enfin c'est le B, pardon, on commence par le B, par le Blitz. Et puis le dimanche, donc ce sera le dimanche 1er mars, là, toute la journée, les joueurs vont tous faire, encore une fois, 9 parties, de la même façon, 3 tournois, le rapide des As pour les meilleurs, le rapide accession pour les gens qui se trouvent un petit peu entre les deux, et le rapide de l'avenir, donc pour le débutant jusqu'à celui qui est classé 1600. Et là, la cadence est de 12 minutes plus 5 secondes par coup par joueur, on va dire des parties qui durent environ une demi-heure, Stéphane.
Oui, voilà, donc 5 minutes plus 2 secondes la cadence du Blitz, et donc 12 minutes plus 3 secondes la cadence du rapide. Ah, c'est des belles cadences, cadences Fischer. C'est aussi un leg que nous a laissé d'ailleurs Bobby Fischer, hein, faut pas oublier.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais. On cite Bobby Fischer, le très très grand champion du monde, hein, qui a eu le parcours que l'on sait, ou si on le sait pas, il faut l'étudier parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir un joueur comme ça qui a battu à l'époque les Russes, hein, parce qu'il y avait en face quasiment que des Russes, et qui nous a laissé aussi des inventions comme le random chess, c'est-à-dire la possibilité de jouer aux échecs avec les pièces tirées au sort, une invention qu'il a mis au point, et puis aussi cette fameuse cadence Fischer, qu'on dit on a un capital temps, mais on a aussi un rajout de temps par seconde et par coup, qui transforme aussi... le jeu, puisque ça évite justement de perdre uniquement autant. On peut perdre autant aussi, bien sûr, on peut épuiser son capital temps, mais on a au moins 3 secondes pour faire un coup, ce qui fait que si on joue assez vite, on peut quand même continuer à survivre et à ne pas perdre des parties archi-gagnantes uniquement parce qu'on n'a plus de temps pour la perdre. Voilà. Donc là, deux cadences Fischer, et c'est plus souple et il y a moins de tension sur l'échiquier. Il y en a toujours, hein, mais un peu moins.
C'est un peu petit plus, peu moins, exactement.
Voilà, c'est un peu moins tendu, et c'est un peu plus du jeu d'échecs et un peu moins de la gestion du temps.
Ouais. Et tu disais, Stéphane, que Bobby Fischer était effectivement une star qui avait réussi à battre les Russes. Peut-être puis-je parler de ce palmarès de
ce RnB. Voilà, exactement. Il faut absolument parler aussi
De ce palmarès de ce RnB et dire que le vainqueur, le double vainqueur de l'an dernier, c'est-à-dire quand je dis double vainqueur parce qu'il a aussi bien remporté les internationaux de France de Blitz, donc le samedi, et il a remporté les internationaux de France de partie rapide le dimanche. Bon, ce n'est autre, Stéphane, que Maxime Vacher-Lagrave, qui est donc francilien et qui est pas loin d'être dans le top 10 mondial aujourd'hui, et qui vient de nous faire une performance pharaonique aux Pays-Bas, qui vient de se terminer en terminant deuxième derrière le numéro 1 mondial hier, je crois, Stéphane. Hein,
c'est exactement, avec une performance digne d'un champion du monde, effectivement, puisqu'il a fait une performance élo à 2870, pas loin, de mémoire, hein, donc un score tout à fait colossal. Et oui, il y a juste un demi-point derrière Magnus Carlsen, qui là aussi fait une très très belle victoire. Donc, Maxime, qui a battu d'ailleurs Caruana, je crois bien, la dernière ronde.
Oui.
Caruana, qui.
Non.
Ben oui, Caruana, italien, effectivement. Américano-italien, je crois qu'il a double nationalité.
Oui.
Et qui avait réussi à Saint-Louis à battre Carlsen dans un tournoi, à être leader du tournoi en ayant gagné 7 parties de suite. Un score qui est considéré comme une des plus grandes performances de tous les temps, et mais que là Maxime a terrassé. Voilà, donc Maxime qui démontre qu'il a aussi des nerfs d'acier, qu'il est capable de tenir un tournoi au plus haut niveau, et il n'arrête pas d'enchaîner les performances à ce niveau-là. Alors à noter d'ailleurs qu'avec Fraissinet, Maxime Vacher-Lagrave, Fraissinet et Carlsen sont un peu de la même génération. Je crois que Fraissinet est un peu plus âgé, mais et ils ont pas mal joué, je crois bien, dans leurs jeunes années ensemble. Ils ont fait beaucoup de parties ensemble. Ils s'aiment bien, ces joueurs-là.
Ouais.
Et notamment, ils ont joué en. Je me rappelle qu'ils jouaient assez souvent le tournoi de Bienne, je crois, Bielle en Suisse. À vérifier, mais je crois qu'ils ont joué souvent ces tournois-là en se tirant un peu dans les pattes les uns sur les autres, comme ça, mais dans le jeu, voilà, ce sont amis dans la vie, je crois bien, ces trois-là. Et voilà.
Et ils sont, enfin, pour nos deux Français, ils sont franciliens. Alors, Maxime a gagné donc l'an dernier en 2014.
Oui.
Alors, l'an dernier, Stéphane, nous avions eu pour le Blitz presque 400 joueurs. 398, donc sur le samedi après-midi, et 325 le dimanche. Alors, je dirais, malheureusement, pour nous, l'Île de France, comme pour tous les clubs, je le disais tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des salles, c'est compliqué d'avoir des bénévoles qui gèrent aussi tout ça, mais d'abord, c'est compliqué d'avoir des salles. Malheureusement, nous enchaînons ce festival d'échecs, les internationaux à RnB, nous les enchaînons le samedi et dimanche. Et donc ça suit les qualifications Île-de-France jeunes. C'est la deuxième semaine des vacances scolaires. Et nos 800 jeunes qui se sont battus sur l'échiquier toute la semaine, deux jours après, il y a l'école. Alors certains, vraiment, et on en a beaucoup, hein, des acharnés qui sont de plus en plus forts, arrivent à rester le samedi. Le dimanche, ça devient plus dur. Le lundi, c'est l'école. On a quand même eu 325 joueurs l'an dernier. Il est vrai que si nous pouvions avoir une autre date pour cette compétition, les 800 jeunes, je suis persuadé, Stéphane, qu'on en aurait beaucoup qui viendraient jouer ces internationaux de France. En 2013, 430 joueurs sur le Blitz. Le vainqueur, Stéphane, c'est Maxime Vacher-Lagrave, déjà
ouais.
En 2013.
Ouais.
Et en 2012, eh bien, tu te citais, c'était Laurent Fraissinet.
Et voilà.
Encore un francilien. Donc voilà, nos franciliens gagnent depuis 2012. En 2011, on était déjà à 400. Hein, c'était Tigran Garamyan qui joue maintenant sur le drapeau France, hein.
Ouais.
Qui joue sur le dépôt France. En 2010, 500 joueurs sur le Blitz, 500 joueurs sur une journée, c'était Sébastien Feller qui avait gagné. En 2009, alors quelqu'un est vraiment très très gentil, 400 joueurs, c'était Murtas Kasgaleyev. Mmh. Et donc dans notre palmarès, en fait, le seul vraiment étranger hein, qui a gagné notre Blitz ou notre Rapide, bah, c'est Murtas hein, en 2009. Puisqu'en 2008, c'était déjà Maxime qui avait gagné, et en 2007, alors, il n'est pas français, il est italo-luxembourgeois, c'est Alberto David, mais comme il vit à Paris, qu'il est francilien, il est notre, tous nos tournois, je ne sais pas si on peut dire, quand même, hein, il est chez lui quand il gagne. Donc, bravo à tous nos Français, c'est pas facile, hein, parce que je le disais tout à l'heure, ces championnats de France Blitz et Rapide, il est ouvert au monde entier. Et donc je voilà un petit peu je complète ce que t'as dit. Bobby Fischer avait battu les Russes, et ben nos Français ils battent pas que les Russes, parce qu'aujourd'hui on a un paquet de nationalités qui viennent justement au mois de février. On les attend et nos Français les attendent pour les battre, Stéphane.
Voilà, alors tu viens de nous citer le palmarès, c'était remonté jusqu'à 2007, qui je crois a été justement
la première édition.
Alors à noter que même Murtas, Alberto aussi, s'ils ne sont pas français, ils sont francophones, c'est-à-dire qu'ils parlent quand même le français, ouais. Puisqu'ils vivent en France ou ils ont vécu en France longtemps. Qui sont finalement des grands maîtres à la fois très très forts et très sympathiques. Mais on peut noter aussi pour nos auditeurs que justement, dans ces événements-là, on a la chance, l'honneur, j'ai envie de dire. Moi, à chaque fois, ça me hérisse le poil de pouvoir jouer face à des grands maîtres de premier plan mondial, quoi. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, alors pas toutes les rondes, parce que évidemment, dès qu'on a perdu des parties, ben, on est avec des joueurs moins forts, même si ça reste des joueurs très forts. Hein. Enfin, on a toujours des joueurs de son niveau, hein, de toute façon. Mais on peut jouer face à un Istratescu, un Fraissiné. Moi, ça m'est arrivé de jouer face à Maxime, je crois bien. Je crois bien, j'en suis sûr. lors de ce Blitz ou R'n'B, alors, je ne sais plus si c'était le Blitz ou le Rapide, mais je me rappelle, c'était une partie tout à fait intéressante. Et surtout, voilà, c'est un honneur pour un joueur amateur de pouvoir jouer face à un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Voilà, ouais. C'est toujours agréable et c'est toujours des grands souvenirs. Et quel que soit, évidemment, bon, en général, on perd la partie, c'est rare. Si on arrive à accrocher, alors là, ça devient un exploit dont on peut parler tout le reste de sa vie.
Alors, tu as raison. Et puis, quelle fierté. Moi, je me souviens, donc, 2011, puisque c'était... je me souviens, c'était moi qui avais remis les prix. Nous avions Maxime Vacher-Lagrave, nous avions Étienne Bacrot, Laurent Fraissinet était à Moscou, et nous avions mais tous les meilleurs joueurs français, les grands maîtres, Anthony Viric, Sébastien Mazé, Jonathan, Doré Rassou, nous avions Anthony Belaïch, Tala Bergel, Jean-Luc Chabanon, Jean-Pierre Leroux, ils étaient tous là, j'en oublie, pardon, à ceux que j'oublie, mais il manquait dans les meilleurs joueurs français cette année-là, Laurent Fraissinet, qui était à Moscou sur un tournoi, il manquait, je crois, Christian Boer, sinon nous avions les meilleurs joueurs français, et c'est comme tu dis, voilà, un tournoi où le moins fort, entre guillemets, Stéphane Laborde, c'est quand même t'es un très bon joueur, Stéphane, peut rencontrer Maxime Vacher-Lagrave.
Voilà, donc on peut rencontrer des joueurs vraiment exceptionnels. Et puis même si on ne joue pas dans les tournois où on peut les rencontrer, on peut les voir, on peut les côtoyer de près. Parfois on peut leur parler, pas longtemps, parce qu'en général ils sont concentrés, ils ont autre chose à faire, mais ils sont souvent aussi accessibles et on peut leur faire signer un autographe. Ou voilà. Donc c'est un lieu voilà, pour rencontrer les stars de l'échiquier. C'est ce que permet le jeu d'échecs, voilà, de mettre tous les joueurs presque... disons au même niveau que y compris les tout meilleurs joueurs du monde. Alors c'est plus dur de jouer contre un champion du monde hein, parce que là en général il joue plus ce genre de tournoi là parce qu'il joue moins des open, il joue plus des tournois fermés, mais ça peut arriver, ça arrive, ça peut arriver aussi de jouer un open ou jouer un champion du monde et avoir la chance de jouer à côté de lui ou de tomber face à lui, pourquoi pas, ça pourrait arriver, bon faut déjà avoir un petit niveau parce que l'appariement en général vous laisse pas comme ça tomber.
Alors ouais. Et puis l'année dernière, Maxime Vacher-Lagrave, il était numéro 10 mondial l'année dernière. il nous a fait une performance à 3043.
Ouais, ouais.
C'est juste... Là, on est au-dessus de Bobby Fischer, Stéphane.
Oui, alors faut pas comparer dans les époques parce que
non, on compare pas.
On peut pas comparer les époques parce que le nombre de joueurs est pas le même, donc la dispersion Elo n'est pas la même et on pourrait pas, on peut pas vraiment comparer. On peut comparer si on regardait les écarts, par contre, Bobby Fischer dominait plus son époque qu'aujourd'hui Carson parce que l'écart entre Fischer et le second était plus grand en fait, voilà. Mais bon, c'est on peut pas vraiment comparer dans le temps, c'est difficile. Il n'y a pas de critères objectifs pour ça. Alors, on a parlé du R&B, donc tu vas nous rappeler les dates et le lieu.
Alors, donc, le R&B, donc les dates, le samedi 28 février pour le Blitz, donc 28 février l'après-midi, et puis le Rapide, donc le 1er mars, le dimanche 1er mars, donc le lendemain, et les deux ayant lieu toujours au complexe Louis-Lumière, donc le gymnase Louis-Lumière, donc Paris 20e, accessible évidemment par tous les moyens, que ce soit la voiture ou les transports en commun.
Très bien. Alors maintenant, on va parler au reste de l'actualité de cette année. On va voir qu'il y a quand même un événement très important pour la Ligue Île-de-France, puisque c'est les 90 ans. Et oui, c'est en 1925 à Paris qu'a été créée donc la Ligue Île-de-France des échecs. Un an après... Eh bien, la Fédération Internationale des Échecs, puisque je me rappelle bien que c'est à Paris en 1924. Ça a suivi juste après, sans doute, avec la Fédération. Donc, 90 ans, et donc, annonce par la Ligue, on l'a vu, une affiche, tournoi fermé, donc tournoi très haut niveau fermé, 2 MI, 2 maîtres internationaux pour un premier tournoi dont tu vas nous parler, et un deuxième tournoi aura lieu, et ça nous fera la transition pour parler du championnat de Paris, puisqu'un deuxième tournoi aura lieu de GMI cette fois, de tournoi de GMI. Alors faut savoir que ces tournois fermés, que ce soit tournoi de MI fermé ou tournoi de GMI fermé, sont importants, puisque c'est des tournois, je crois bien, qui sont obligatoires pour obtenir un titre de maître international ou un titre de grand maître international. Il faut avoir fait une performance lors d'un tournoi fermé.
Exactement.
Voire même deux. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais tu vas nous le dire puisque tu es arbitre. Voilà. Donc, c'est des tournois très importants pour ces joueurs-là. Ils sont fermés, on ne peut pas y participer. C'est sur invitation uniquement. Il y a des joueurs qui ont le titre de MI et des joueurs qui sont aspirants au titre. Et ça sera pareil pour le titre de GMI. Il y aura des maîtres internationaux qui seront aspirants au titre de GMI, et puis il y aura forcément aussi des GMI, puisqu'il faut avoir battu des MI ou des GMI pour le devenir soi-même. Donc voilà, donc annonce de ces deux tournois importants, phares, où notamment il y a une star, j'ai vu moi, alors il y en a d'autres, mais moi il y en a une que j'ai envie de citer en particulier, une star des échecs féminins qui participe, puisqu'on a notre jeune et sympathique Mathilde Kongyu qui va participer.
Oui, alors... Donc, Stéphane, effectivement, cette année, une année exceptionnelle, 2015, les 90 ans du championnat de Paris, nous avons décidé pour donc cette grande fête. Donc, championnat de Paris, c'est effectivement, en dehors du fait qu'il est là depuis 90 ans, la plus grosse compétition française en termes de joueurs après les championnats de France qui se déroulent au mois d'août chaque année. Donc très important. Nous avons décidé de rajouter à la fête de ces 90 ans, donc de rajouter un tournoi de maître international. Donc comme tu disais, pour devenir maître international, il faut faire un tournoi fermé au minimum. Et ce tournoi fermé, quand nous ne sommes pas maîtres, tu le disais Stéphane, nous sommes candidats à devenir maître international. Et dans ce tournoi, nous avons des joueurs titrés, donc des joueurs qui sont maîtres ou grands maîtres internationaux. Cette année, le tournoi de maîtres aura lieu du 23 au 27 février, c'est-à-dire pendant que les 800 autres jeunes vont essayer de se qualifier au championnat de France. Nous l'avons fait à la même époque pour deux raisons. La première, effectivement, il faut rajouter un événement à la fête des 90 ans du champion de Paris. Et la deuxième, nous le faisons à la même époque parce que dans ce tournoi, Stéphane, nous faisons jouer des joueurs. Tu l'as cité, c'est Mathilde qui est de Bois-Colombes. Elle est francilienne. Elle est maître international féminin. Nous, et donc, Nous avons également dans ce tournoi quelqu'un d'un niveau un petit peu au-dessus, c'est Sammy Shocker. Il est grand maître international, il est de Bois-Colombes et il a fait sa norme de grand maître. Il est devenu grand maître en Île-de-France et surtout Sammy, il a été le petit jeune, le petit poussin, Stéphane, celui de, tu parlais tout à l'heure, qui a 5 ans, il vient d'arriver dans le club, donc il doit aussi faire sa compétition départementale. Eh bien, il a gagné sa compétition départementale, il veut devenir champion de France, eh bien, il peut être au-dessus de champion de France, il peut devenir grand maître, c'est ce qu'a fait Sammy Shocker. Sammy Shocker, voilà, un jeune, aujourd'hui, il est étudiant, Sammy Shocker, il est grand maître international, il est passé par ce tournoi de qualification, c'est pas le seul. Dans ce tournoi de maîtres internationaux, Stéphane, nous n'avons que des gens d'Île-de-France et beaucoup, beaucoup de jeunes. La liste est déjà visible sur notre site de la Ligue. Nous avons un cadet qui est candidat maître, il est de Clichy. Nous avons un minime qui est candidat maître. Nous avons deux juniors qui sont aussi candidats au titre de maître international. Donc voilà, Stéphane, des jeunes, des franciliens, pour nous permettre, enfin pour permettre, pardon, à ces candidats, nous devons aussi avoir des nationalités différentes. Il faut au moins quatre nationalités. Donc c'est ce que nous avons dans ce tournoi.
Voilà.
Avec tous ces jeunes joueurs.
Un grand maître, deux maîtres internationaux.
Mathilde
est maître international, mais féminin, donc elle
féminin, mais voilà, maître, voilà.
C'est-à-dire, elle peut passer maître aussi en faisant la performance.
Exactement.
Elle a le niveau, hein, c'est-à-dire qu'elle a 2330 élo, donc elle a qu'à 70 points de 2400. Je veux dire, c'est pas inaccessible. Donc, alors, faut rappeler aussi qu'il faut atteindre 2400 élo. Je crois aussi, c'est une condition supplémentaire.
Oui.
Mais bon, c'est quelque chose qui se déroule pas sur un seul tournoi. Il faut faire plusieurs performances et en plus avoir atteint 2400 élo dans une certaine durée. Voilà, il y a des conditions contraignantes. On ne passe pas maître international comme ça et on passe pas grand maître encore moins comme ça. Je veux dire, ça demande un investissement non négligeable et du talent. Donc on peut être fier d'obtenir ce genre de titre et on peut même être fier d'être candidat pour ce titre. Voilà, parce que même être candidat pour ce titre, ça démontre déjà d'avoir un niveau qui vous permet de l'espérer. C'est déjà un très très bon niveau de joueur d'échecs, évidemment. Donc
ouais.
Voilà, 10 joueurs qui vont se battre et les jeunes qui participent au championnat, et ainsi que les accompagnants, et ainsi que les spectateurs pourront venir voir s'affronter des maîtres, grands maîtres et candidats maîtres, donc pour un tournoi international au mois de février. Donc, alors, et forcément derrière, il y aura aussi, dans la même idée, donc c'est un cran au-dessus, cette fois c'est pour le titre de grand maître, et ça sera sans doute pendant le championnat de Paris. Donc.
Pendant le championnat de Paris. Alors le championnat de Paris, donc au mois de juillet, hein, tous les ans pour la Ligue Île-de-France des échecs, voilà, même chose, hein, là c'est vraiment une grosse fête, les 90 ans du championnat de Paris, alors le palmarès apparaîtra bientôt sur notre site, hein, nous avons eu de très très forts joueurs. Alors, il se trouve que ce championnat de Paris, à une époque, était ouvert qu'aux Français. Il était ouvert qu'aux Français, je crois que c'est à partir des années 60, où les organisateurs ont décidé d'ouvrir ce championnat de Paris et de décerner le titre de champion de Paris à des étrangers s'ils gagnaient. Et c'est comme ça que nous, l'an dernier, nous avons un Russe, hein, qui s'appelle Sergei Fedorchuk. C'est lui qui a gagné le championnat de Paris l'an dernier. Et Sergei, c'est quelqu'un de très fort puisqu'il a déjà gagné une autre fois ce championnat de Paris.
Oui, alors il faut citer, hein, pour Fedorchuk, pour ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'on a parlé de Corse un peu au début, qu'il a fait il est arrivé en finale du Corsica Masters cette année, qui est déjà un excellent résultat. Il a perdu face à la championne du monde, Ouzifane, en finale, mais qu'il avait battu en demi-finale, surtout, il avait battu Vishvanathan Anand, hein, oui. L'ancien champion du monde, finaliste pour la deuxième fois consécutive de nouveau du championnat du monde qu'il a perdu face à Magnus Carlsen. Donc Fedorchuk a battu Viswanathananand. Donc voilà, un des joueurs qui est au top niveau mondial, c'est ce joueur-là qui donc a gagné ce championnat de Paris 2015 et qui donc aussi avait fait cet excellent résultat au Corsican Masters. Voilà, c'est quand même le top du top. Voilà, donc je dois dire que on a là des joueurs qu'il faut il faut suivre avec intérêt, et puis quand on est joueur, et même quand on fait ces tournois là forcément on va aussi voir, on en profite pour aller voir les parties du haut de tableau, puisque en plus elles sont retransmises sur écran vidéo.
Elles sont retransmises, exactement. Je reviens encore une fois sur ce palmarès et sur ces normes, hein, dont on parle. Donc on disait qu'on doit faire, quand on veut devenir maître ou grand maître, on doit faire des tournois fermés. Donc voilà, nous organisons un tournoi fermé pour ces grands maîtres. Alors là, Stéphane, je n'ai pas encore la liste définitive des participants, car tout le monde nous a pas confirmé. Et puis le championnat de Paris, donc ouvert à tout le monde, hein, ouvert à tout le monde, on peut également faire donc cette norme de grand maître. Il se trouve que en 2006, nous avions un certain Maxime Vacher-Lagrave qui faisait norme de grand maître. Hein, donc voilà, tout le monde peut y arriver. Mais comme tu disais, faut déjà avoir un bon pédigré, un bon niveau pour réussir à faire ces normes de grand maître. On a eu Alberto David, on le citait tout à l'heure, il avait été champion de Paris aussi. Nous avons eu Christian Bauer qui a été champion de Paris, nous avons eu Sébastien Feller, et donc surtout hein, le dernier, c'est Sergei Fedorchuk, qui je l'espère, hein, sera là pour défendre son titre cette année. Nouveauté quand même, Stéphane, depuis deux ans, le championnat de Paris, traditionnellement, les parties ont lieu le soir. Hein, ont lieu le soir à partir de 19h. Depuis maintenant deux ans, ce sera la troisième année, nous avons créé le petit championnat de Paris, qui permet, ce petit championnat de Paris, aux jeunes, peut-être, qui ne peuvent pas jouer le soir, qui sont accompagnés de leurs parents. Le petit championnat de Paris a lieu, l'après-midi. Je n'ai pas donné les dates, ça démarre le 4 juillet, ça se terminera le 12 juillet. Donc 9 parties qui ont lieu, donc ça c'est pour le championnat de Paris classique, celui qu'on a l'habitude de voir depuis 90 ans, 9 parties. Et le petit championnat de Paris, lui, il a lieu pendant la semaine. Donc ils font 7 parties au lieu de 9, mais ça permet quand même à des gens qui ont du mal à se déplacer le soir, hein, je pense à nos jeunes, hein, la logistique pour eux est plus compliquée. Ce petit championnat de Paris fonctionne aussi, hein, ça marche très très bien depuis deux ans. Voilà, on est très très content de ces deux championnats de Paris. Enfin, c'est surtout aux joueurs qu'il faut le demander, mais en tout cas, ils ont l'air très satisfaits de pouvoir jouer. 170 joueurs l'après-midi. 170 joueurs l'après-midi, hein, c'est quand même un très beau chiffre, et on arrive à nos 600, puisqu'on a nos 400 joueurs sur la soirée.
Ouais, tout à fait. Alors on n'a pas encore, bien entendu, les invités pour le tournoi de grand maître.
Hein, non, je peux pas dire aujourd'hui, j'ai pas toutes les confirmations.
Voilà, ça viendra plus tard, mais il suffit de suivre la Ligue Île-de-France, bien sûr,
exactement,
et ça sera communiqué en temps utile. Alors, tu as parlé de palmarès, c'est bien, je crois qu'on avait un peu initié ça l'an dernier, on avait essayé de parler des palmarès, c'est bien aussi de noter comme ça dans l'histoire et dans les années qui ont précédé, qui sont les grands joueurs qui ont marqué leur nom dans ce palmarès. Alors, évidemment, c'est une demande que fait Fréquence Diagonale au site de la Ligue Île-de-France. Il faut que ces palmarès apparaissent parce que pour l'instant, ils ne sont pas listés sur le site de la Ligue ou même sur Wikipédia, alors que il y aura des informations sur la Fédération Française d'Échecs, sur le palmarès du Championnat de France d'Échecs, sur le palmarès de la Coupe des clubs, voilà, les palmarès nationaux, mais je pense que la Ligue Île-de-France mérite aussi d'avoir des palmarès pour ces championnats R&B qui sont maintenant de niveau vraiment mondial, hein. Tu as cité les victoires de Maxime Bachilagrave, d'Alberto David, de Murtaz Kazgalayev, de Laurent Fressinet, qui sont vraiment des top top joueurs, et puis de Fedorchuk par exemple dans le championnat de Paris, qui a été gagné bien sûr par bien d'autres joueurs de vraiment très très haut niveau mondial.
Objection retenue, fréquence diagonale. Hein. Quand même, je rappelle, hein, sur Wikipédia, nous retrouvons tous les vainqueurs du championnat de Paris. Mais objection retenue, ce sera sur le site de la Ligue de France d'échecs très prochainement. Hein. Mais sur Wikipédia, on retrouve tous les champions de Paris depuis le début. Et effectivement, nous avons eu des noms prestigieux qui ont gagné ce championnat de Paris, donc le premier en 1925.
Et on pourrait même envisager, pourquoi pas, hein, parlons aussi, essayons de rêver un peu, pourquoi pas un livre annuel, hein, le livret annuel de la Ligue Île-de-France qui reprenne ces informations, ces palmarès de ces tournois mis à jour, de façon à ce que aussi ben, les joueurs puissent connaître l'histoire de la Ligue, savoir quels sont les champions qui ont marqué leur nom au palmarès, et puis ben, pour beaucoup d'entre eux aussi, voient aussi leurs propres résultats, parce que pourquoi pas mettre les grilles des tournois les plus importants, où les joueurs pourraient aussi donc avoir cette information compilée, je pense que ça pourrait être intéressant.
On va effectivement y réfléchir, hein, donc c'est très 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 bonne idée. C'est vrai que c'est important de voir voilà Maxime Bachelagrave qui gagne en 2007 ce championnat de Paris, Laurent Fressinet qui le gagne en 2002, Joël Lautier qui le gagne en 2000, Joël Lautier ex numéro 1 français, et puis d'autres joueurs qui sont encore là aujourd'hui, hein. Je pense au grand maître Éric Prier qui aujourd'hui est vice-président de la Fédération Française d'Échecs, il l'avait gagné en 1982 pour la première fois, hein.
Et oui, voilà.
César Bouteville, enfin voilà, on a eu la crème.
Et oui, César Bouteville aussi
qui ont gagné ce championnat de Paris.
Voilà, qui fait partie de l'histoire, Joël Lautier dont tu disais, mais qu'il faut rappeler pour les jeunes qui ne le connaissent pas, parce qu'il a tiré un trait pour l'instant sur sa carrière, peut-être qu'il reviendra, on peut toujours revenir aux échecs à n'importe quel âge, mais qui a été champion du monde junior, qui a été un des plus jeunes champions du monde junior de l'histoire, et qui a eu une carrière époustouflante, puisque c'est un des rares joueurs au monde qui est positif face à Garry Kasparov. Hein, voilà, faut le rappeler ça, hein, c'est que Kasparov a... doit avoir que d'ailleurs soit peut-être même le seul, c'est peut-être le seul joueur face à qui il est en négatif sur son score de joueur professionnel. Garry Kasparov, c'est notre ancien numéro 1 français, grand maître international, champion du monde junior, Joël Lautier. Voilà, donc un très très grand joueur de l'histoire du jeu, on peut le dire maintenant aussi, hein, de l'histoire du jeu d'échecs et particulièrement en France, qui a percé des murs, qui a percé des murailles.
Exactement.
Voilà, donc,
j'ai oublié de citer, hein, nous avons eu en 2013 Adrien Demuth, hein, qui est peut-être moins connu, mais qui est quand même un très très fort joueur. C'est lui qui a gagné le championnat de Paris 2013. Hein, j'ai oublié de le citer, c'est important. J'espère qu'il viendra défendre, qu'il viendra peut-être récupérer son titre, ouais, qu'il a laissé l'an dernier à Sergei Fedorchuk. Hein. Il joue à Poitiers, je crois, hein, Adrien.
D'accord. Donc, ben, merci, hein, Robert. Je crois que on a vu, hein, on a revu, on a refait un bilan sur la Ligue Île-de-France cette année. Le calendrier, je crois qu'on l'a revu en détail. Et puis, on a aussi célébré ses 90 ans avec ce R&B qui s'annonce explosif cette année. On a vu aussi des records battus pour les jeunes. On a vu un championnat de Paris qui s'annonce aussi passionnant. Et puis un palmarès qui n'attend que d'être révélé pour les championnats aussi. Alors tu me dis, il est déjà affiché pour le championnat de Paris, et il faudrait qu'il le soit pour le R&B aussi, je pense. Et ben, ça viendra, hein, il faut progresser aussi dans cette dimension-là. Sur le temps, l'histoire du jeu, c'est important aussi de savoir comment les choses évoluent dans le temps, parce que ça permet aux joueurs de lancer des défis, d'essayer de faire mieux que les anciens. Voilà.
Un grand merci Stéphane, et plein de connexions à fréquence diagonale.
Ben merci, et en souhaitant que ça donne des informations à tous les joueurs d'échecs, débutants ou moins débutants, qui veulent.
Rendez-vous
qui...
le 23 février pour les jeunes et le 28 pour tout le monde.
Voilà, merci à tous, merci Robert, et à une prochaine
merci
fois
Stéphane.
Sur fréquence diagonale. Je vous laisse avec notre générique fétiche. Au revoir.